Voici une simple question dont la réponse pourrait vous amener à être sûr de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? La parole de Dieu va nous donner une réponse très claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je souhaite de tout cœur que les questions suivantes soient vos questions. Parce que les réponses que nous donnera la Bible pourront vous donner suffisamment d'informations pour savoir par quels moyens vous pourrez être sûr d'aller au ciel un jour. Voici les questions. Comment est-ce que notre péché nous est révélé? De quelle manière est-ce qu'on peut être purifié de notre péché? Est-ce que c'est l'enseignement de Jésus-Christ qui sauve les pécheurs? Est-ce que c'est le sang de Jésus-Christ qui sauve les pécheurs? Est-ce qu'une personne qui est membre d'une église est forcément sauvée? Faut-il payer pour être sauvé? Je vous encourage à demeurer à l'écoute pendant cette courte émission afin d'entendre les réponses qu'on va recevoir des Saintes Écritures. Dieu a un message important pour vous aujourd'hui. Et le pasteur Régent Joly a une Bible ouverte devant lui. Il est prêt à nous communiquer cet enseignement précieux de la parole de Dieu. Allons dans la présence de Dieu. Prions. Ô mon Dieu, tu vas encore nous enseigner sur le péché aujourd'hui. On sait combien tu détestes le péché. Apprends-nous à le détester, nous aussi, et montre à tous les pécheurs perdus comment se rendre à toi. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous sommes au chapitre 38 du livre d'Exode, et ce chapitre traite aussi de la construction du tabernacle. À partir du chapitre 25, Dieu a donné les plans et devis pour sa construction. Maintenant, Betsaleel et ses assistants construisent le tabernacle. Au chapitre 37, nous avons vu la construction du lieu saint et du lieu très saint. Maintenant, nous sommes à la construction des articles pour la cour extérieure. Comme nous le verrons dans le livre des Nombres, Israël voyageait lorsque la colonne de nuée se déplaçait. L'arche, portée sur les épaules par des prêtres lévitiques, précédait l'immense cortège. Lorsque la nuée s'arrêtait, le peuple en faisait autant. L'arche était déposée sur le sol et on y montait le tabernacle autour. On montait les planches de bois d'acacia couvertes d'or. Des barres tenaient le tout solidement en place. Ensuite, on installait 4 tentes sur les planches. Une tente de fin lin retors, une en poil de chèvre, teint cramoisi, une en peau de bélier et une en fourrure. C'est de l'intérieur que l'on voyait toute la beauté du tabernacle. Tout portait sur l'adoration et la louange envers Dieu, et les bénédictions qui en découlaient pour les individus. La cour extérieure, entourée de la clôture de lin, mesurait 100 coudées par 50 coudées. Et c'est là que se trouvait l'autel d'airain et la cuve d'airain. C'est à cet autel que se réglait la question du péché. Un pécheur se présentait à l'entrée du tabernacle et s'y tenait jusqu'à ce qu'un prêtre l'invite à pénétrer dans la cour. Le pécheur posait sa main droite sur la tête de l'animal qu'il avait apporté en sacrifice, que ce soit un agneau, une chèvre ou un bœuf. Alors l'animal était tué et le prêtre l'offrait sur l'autel. Cette personne ne pouvait pénétrer plus loin dans le tabernacle. C'est le prêtre qui pénétrait dans le lieu saint en son nom. Le prêtre devait prendre le temps de se purifier à la cuve d'airain avant d'entrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint, on avait placé le chandelier d'or, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Et ces objets illustraient l'adoration et la prière. Au fond, il y avait un rideau qu'il fallait traverser pour aller dans le lieu très saint. Cependant, aucun prêtre n'osait y pénétrer. C'est là que se trouvaient l'arche de l'Alliance et le propitiatoire. Seul le souverain sacrificateur pénétrait dans le lieu très saint une fois par année au nom de la nation d'Israël. Chers amis, débutons notre lecture, Exode chapitre 38, versets 1 à 7. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia, sa longueur était de 5 coudées, et sa largeur de 5 coudées, il était carré, et sa hauteur était de 3 coudées. Il fit aux 4 coins des cornes qui sortaient de l'autel, et il le couvrit d'airain. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille d'airain, en forme de treillis, qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Il fondit 4 anneaux, qu'il mit aux 4 coins de la grille d'airain, pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia, et les couvrit d'airain. Il passa dans les anneaux, aux côtés de l'autel, les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux, avec des planches. C'est sur cet autel que les victimes étaient sacrifiées et que le péché était jugé. C'est ici qu'un individu ou la nation venait pour se faire pardonner de ses péchés. Lorsque cet autel fut construit, personne ne put en construire d'autre. Cet autel était sur le chemin qui conduit à Dieu, et en construire un autre ailleurs qu'ici aurait été un blasphème. C'était un endroit très important, parce que c'est là qu'on offrait des sacrifices pour le pardon de ses péchés. On ne pouvait pas adorer ou recevoir des bénédictions sans d'abord venir à cet autel. Les cornes de l'autel illustraient la puissance et la capacité de Jésus-Christ à sauver les pécheurs. La Bible donne de nombreuses instructions pour approcher et entretenir cet autel. Pour faire le service à l'autel, il y avait des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Mais l'élément à retenir au sujet de cet autel, c'est qu'il servait à offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. Verset 8. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Oui, chers amis, les miroirs des femmes utilisés pour fabriquer la cuve étaient faits d'airain poli. Les femmes n'ont vraiment pas changé. Elles avaient des miroirs à cette époque. Elles ont fait don de leurs miroirs qui ont servi à construire la cuve d'airain. Ces miroirs représentent la parole de Dieu. En effet, la Bible révèle aux croyants les péchés dont il a besoin d'être purifié. Elle est comme un miroir qui nous montre notre état. La cuve servait à la purification. Lorsque la parole nous montre notre péché, nous le confessons, et Christ nous pardonne et nous purifie de tout péché. C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Nous avons un aménagement semblable dans nos salles de bain. Nous avons un miroir qui nous montre les taches de saleté sur notre visage, et au-dessous, nous avons un lavabo pour nous laver. Le miroir n'enlève pas la saleté. Il ne fait que révéler sa présence. De même, la loi de Dieu que l'on retrouve dans la Bible ne peut pas nous sauver. Vous pouvez vous frotter avec, mais la saleté ne partira pas. Cependant, il y a une fontaine remplie du sang de Jésus-Christ à laquelle nous pouvons aller pour être purifiés. En effet, le sang de Christ nous lave et purifie de tout péché lorsque nous allons à lui. Versets 9 à 16. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes reposant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toile, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur, il y avait pour une aile 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et pour la seconde aile, qui qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 basses. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Le fin lin retors est un symbole de l'humanité de Jésus-Christ, et ce lin sépare les hommes d'avec Dieu. Il y a plusieurs années, un pasteur a énormément déçu J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, lors d'une conférence au temps de Pâques. Ce pasteur était le président d'un séminaire qui se disait conservateur. Le pasteur McGee avait déjà présenté la parole à ce club. Cependant, il a appris que le président avait affirmé que tout ce que nous avions à faire pour qu'il y ait la paix dans le monde, c'est de suivre l'enseignement de Jésus, même si l'on ne croit pas à sa divinité. Bien, ce raisonnement est faux. Il ne pourrait pas y avoir de paix pour qui que ce soit sans que Christ ait versé son sang. La clôture de fin lin, qui est un symbole de l'humanité de Christ, sépare l'homme de Dieu. La vie de Christ ne nous sauve pas, elle nous condamne plutôt. C'est la mort de Christ qui nous sauve. Lorsque des prédicateurs qui affirment être conservateurs enseignent des choses comme celle-là, il ne faut pas nous étonner de l'état de confusion qui règne dans le monde. La parole de Dieu, surtout le tabernacle, est semblable à un livre d'images. Si vous faites seulement regarder les images, la vie et les enseignements de Jésus-Christ ne peuvent pas vous sauver. Premièrement, nous ne réussirons jamais à nous conformer aux normes de son enseignement ou de son exemple. Les théologiens libéraux ont affirmé le contraire pendant de nombreuses années. Et regardez l'état lamentable de nos églises. Il est temps de s'afficher en faveur de la vérité. Les enseignements de Christ ne nous sauvent pas. C'est la mort ou le sacrifice de Christ à la croix qui vous sauve. C'est pour cette raison que l'autel des reins fut aménagé. La clôture de fin lin empêchait l'homme d'approcher Dieu, et Dieu d'approcher l'homme. Même si les bases pour le tabernacle étaient d'argent, les bases de la clôture de fin lin étaient des reins. Les reins est le métal qui symbolise le jugement du péché. La description de Christ que l'on trouve dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 15, parle de ses pieds, semblables à de l'airain ardent. Je vous avertis, mes amis, le péché doit être jugé. Nous devons nous rendre compte que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu tant que la question de notre péché n'est pas réglée. Cependant, et fort heureusement, il y a les crochets et les tringles des colonnes qui sont faits d'argent, un métal qui symbolise la rédemption. La clôture de lin qui entourait le tabernacle gardait l'homme à distance, mais Dieu a pourvu un moyen afin qu'il puisse venir en sa présence. Il a trouvé un moyen de condamner le péché et pourvu un sacrifice afin qu'il puisse être racheté et revêtu de la justice de Christ. Quelle belle image! Vous pouvez observer le tabernacle et y voir l'Évangile, la bonne nouvelle. Dieu nous a présenté son Évangile sous forme d'image. Versets 17 à 20. Les bases pour les colonnes étaient d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était de 5 coudées comme la largeur des toiles du parvis. Ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient d'airain. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte, du tabernacle et du parvis étaient d'airain. Le tissu et ses couleurs nous parlent de la personne de Christ. Nous avons déjà vu cela, mais ça ne peut nuire de le répéter. Le bleu nous rappelle que Christ est Dieu et qu'il est venu du ciel. Le cramoisi nous rappelle l'humanité de Christ et du sang qu'il a versé pour l'humanité. Le bleu et le cramoisi, lorsqu'ils sont fondus l'un dans l'autre, donnent la couleur pourpre. Cette couleur est le symbole de la royauté. Jésus-Christ est né roi des Juifs. La porte était aussi haute que la clôture, qui avait environ 2,30 mètres de haut. Même un joueur de basket éprouverait de la difficulté à regarder par-dessus. Cette porte était le seul moyen de pénétrer dans la cour du tabernacle. La porte était suffisamment large pour que n'importe quel pécheur puisse entrer, mais c'était l'unique porte. Christ a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Cette porte de la cour extérieure me fait penser au chemin qu'est Christ. La porte suivante donne accès à la présence de Dieu dans le lieu saint. Cette porte est le symbole de la vérité. Christ a dit que l'on adorerait le Père en vérité et en esprit. Chers amis, je ne veux pas être dur, mais adorer dans une église qui nie la personne de Christ ainsi que son œuvre n'est pas de l'adoration. Nous devons adorer en vérité. Vous ne pouvez pas nier la divinité de Jésus-Christ et sa mort expiatoire à la croix et l'adorer. Il serait préférable que de nombreuses personnes n'aillent pas dans certaines églises. Leur état spirituel laisse à désirer. Et l'église qu'elles fréquentent offense Dieu en rejetant la divinité de Jésus-Christ. La dernière entrée donnait accès au lieu très saint. Le prêtre devait traverser un rideau qui était une image de la vie que Christ a donnée pour nous à la croix. Lorsqu'il est mort, ce rideau s'est déchiré en deux, de haut en bas. Cela indiquait que le chemin au trône de la grâce était maintenant ouvert. C'est la vie. Jésus l'a déclaré. Et je redis ce texte. Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà la vérité, le seul et unique chemin par lequel nous pouvons nous rendre à Dieu, Jésus. Versets 21 à 24. Voici les comptes du tabernacle d'assignation, révisé d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oliab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, se montait à 29 talents et 730 cycles selon le cycle du sanctuaire. Maintenant, j'aimerais que nous considérions le cas des individus qui formaient la nation d'Israël. La nation d'Israël est appelée un fils. Dieu n'a jamais appelé un individu d'Israël ainsi. On se posait, et on se pose encore la question suivante. Qui est un juif? Un juif est-il une personne de descendance juive ou une personne qui pratique la religion juive? Dans l'Ancien Testament, c'est par naissance que l'on était juif. Dieu avait ordonné que tous les hommes soient rachetés, indiquant que chaque individu doit naître de nouveau. Israël était le peuple choisi, mais chaque individu devait être racheté. Versets 25 et 26. L'argent de ceux de l'assemblée, dont on fit le dénombrement, se montait à 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire. Pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les Juifs apportaient de l'argent au tabernacle, car c'était le métal de la rédemption. Chaque individu devait être racheté pour ne pas être exclu de l'assemblée d'Israël. Nous avons été rachetés par le sang de Christ, qui est plus précieux que l'or et l'argent. chaque individu de cette nation n'était pas sauvé. Seul un reste fut sauvé, tout comme aujourd'hui, alors que tous les membres des églises ne sont pas sauvés. Seulement un faible pourcentage des membres des églises est sauvé aujourd'hui. Un homme a un jour admis que lui et son épouse ont longtemps fait semblant d'être chrétiens. Nous nous assoyons parmi les autres hypocrites. Nous n'étions pas nés de nouveau, mais nous faisions tout comme. Avant le coucher du soleil, nous étions ivres. Être membre d'une église ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Nous devons être rachetés par le sang de Christ. Chaque enfant de cette nation qu'est Israël devait être racheté. Versets 27 à 31. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, 100 bases pour les 100 talents, 1 talent par base. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes, et on couvrit les chapiteaux. L'airain des offrandes se montait à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel d'airain avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel, les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Les bases furent fabriquées en argent, le métal de la rédemption. C'est sur ces bases qu'était monté le tabernacle. Le tabernacle reposait sur l'argent, donc sur la rédemption. Chaque individu doit personnellement accepter le cadeau de la rédemption en Jésus-Christ. Vous devez payer le prix de la rédemption. Quel est ce prix? Ce n'est pas de l'argent ni de l'or. Vous n'avez qu'une condition à remplir, avoir soif. Voulez-vous un verre d'eau? Un verre d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est gratuit. Le salut est gratuit. Mais il est très cher. Votre salut a coûté la vie du Fils de Dieu. Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour nos péchés. Et c'est ça le prix de notre rachat. Nous sommes rachetés par son sang. Dans le désert, la rédemption fut imposée au peuple. Lorsqu'il entrait dans la terre promise, pour être compté parmi les rachetés, il devait payer le prix de leur rachat. Chers amis, nous louons Dieu que notre rachat soit déjà payé. Il ne nous coûte pas un sou. Il est d'une valeur inestimable, mais vous devez avoir soif pour l'obtenir, le désirer de tout votre cœur. Voulez-vous être sauvé? Reconnaissez-vous votre besoin et le fait que vous êtes pécheur? Alors, venez à Christ. Le prix de votre rachat est déjà payé. Christ a versé son sang précieux pour vous. Il vous permet de venir vers Dieu et d'être reçu en Christ. Le salut est personnel. Vous devez venir le chercher. Un à un. Toi, tu dois venir à Dieu pour venir chercher le salut qui se trouve en la personne de Christ. Tu peux le faire maintenant. Tu reconnais que tu es un pécheur? Regarde à Christ, celui qui veut devenir ton sauveur et Seigneur de ton existence. Pour Dieu, toutes ses créatures sont très précieuses à ses yeux. Et ce n'est pas à coup d'or et d'argent qu'il veut vous racheter, mais par sa propre vie, en Jésus-Christ mort à la croix pour vous. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant les chapitres 39 et 40 du livre d'Exode.
Oh, merci beaucoup, Régent. On peut voir à quel point il est important de lire la Bible. Elle est comme un miroir qui nous montre notre état. Elle nous montre notre péché. Ensuite, il nous reste à le confesser pour que Christ nous pardonne et nous en purifie par son sang. C'est bien clair aussi. Suite à l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui, que c'est la mort de Christ qui nous sauve et rien d'autre. Dans son amour, Jésus a été l'ultime sacrifice pour qu'on soit racheté et revêtu de sa justice. Quel bel enseignement! J'ai beaucoup aimé l'exemple de la porte du parvis, qui était le seul moyen de pénétrer dans la cour du tabernacle. Réjean nous a expliqué que cette porte était une figure de Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça me fait penser aussi que Jésus a dit quelque chose que l'on retrouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, des versets 7 à 9. Il a dit « Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutées. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Je pense pas qu'on puisse trouver plus clair que ça. Si tu passes par Jésus, tu seras sauvé. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus, cet agneau sans tache, Dieu fait homme, qui est venu sur la terre sans jamais pécher, qui s'est laissé crucifier par les pécheurs comme si lui-même était coupable. Il a pris ma culpabilité, ta culpabilité sur lui. Et maintenant, mon ami, il frappe à ta porte. Il t'offre de passer par lui pour passer des ténèbres à la lumière. Il veut te donner l'assurance que quand viendra le temps de passer de ce monde à l'au-delà, ce sera au ciel que tu iras. Entre par la porte. Reçois Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. On a vu aussi que le fait d'être membre d'une église quelconque n'est pas ce qui nous sauve. On doit absolument être racheté par le sang de Christ. Être sauvé, ça coûte cher, mais la note est déjà payée. Jésus l'a payé de son sang, de sa vie, de sa mort. Et maintenant, le salut est gratuit pour toi. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Perds pas de temps à chercher à travers toutes les autres portes qui pourraient se présenter devant toi. Il y a juste une porte, et c'est Jésus. Viens à lui. Viens à Jésus. Ce bon berger. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il connaît ses brebis, puis elles le connaissent. Si tu réalises que c'est à toi que ça s'adresse, c'est parce que tu as à être une brebis de Dieu, une brebis dont Jésus est le berger. Tu entends sa voix? Résiste pas à son appel. Entends-tu sa voix? Il parle à ton cœur en ce moment. Il veut te donner la vie éternelle. Demande-lui de te sauver. Qu'il puisse être ton berger qui prend soin de toi. Laisse Jésus toucher ton cœur. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller au ciel. Tu es un pécheur perdu. Il faut absolument que tu naisses de nouveau.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir, et ici à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, à demain.
C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.